Il se tenait debout, sur le seuil de sa chambre, avec ses deux enfants à ses côtés. Il s'inclina sans dire un mot. Elle répondit silencieusement à son salut. Ce qu'il éprouva d'abord, ce fut une stupéfaction infinie. Cette manière de lui faire comprendre l'inanité de son espoir l'écrasait. Il se sentait perdu comme un homme tombé au fond d'un abîme, qui sait qu'on ne le secourra pas et qu'il doit mourir. Il marchait, cependant, mais sans rien voir, au hasard. Il se heurtait contre les pierres, il se trompa de chemin. Un bruit de sabots retentit près de son oreille. C'étaient les ouvriers qui sortaient de la fonderie. Alors, il se reconnut. À l'horizon, les lanternes du chemin de fer traçaient une ligne de feu. Il arriva comme un convoi partait, se laissa pousser dans un wagon et s'endormit. Une heure après, sur les boulevards, la gaieté de Paris le soir recula tout à coup son voyage dans un passé déjà loin. Il voulut être fort et allégea son cœur en dénigrant Madame Arnoux par des épithètes injurieuses. « C'est une imbécile, une dinde, une brute, n'y pensons plus. » Rentré chez lui, il trouva dans son cabinet une lettre de 8 pages sur papier à glaçure bleue et signée des initiales R.A. Cela commençait par des reproches amicaux. « Que devenez-vous, mon cher? Je m'ennuie. » Mais l'écriture était si abominable que Frédéric allait rejeter tout le paquet quand il l'aperçut en post-scriptum. « Je compte sur vous demain pour me conduire aux courses. » Que signifiait cette invitation? Était-ce encore un tour de la maréchale? Mais on ne se moque pas deux fois du même homme à propos de rien, et pris de curiosité, il relut la lettre attentivement. Frédéric distingua. Malentendu, avoir fait fausse route, des illusions, pauvre enfant que nous sommes, Paris à deux fleuves qui se rejoignent, etc. Ce style contrastait avec le langage ordinaire de la Lorette. Quel changement était donc survenu? Il garda longtemps les feuilles entre ses doigts. Elle sentait l'iris. Elle y avait, dans la forme des caractères et l'espacement irrégulier des lignes, comme un désordre de toilette qui le troubla. « Pourquoi n'irai-je pas ?» se dit-il enfin. « Mais si Madame Arnoux le savait ?»« Ah, qu'elle le sache, tant mieux, et qu'elle en soit jalouse, ça me vengera. »
Chapitre 5e. Deslauriers avait emporté de chez Frédéric la copie de l'acte de subrogation, avec une procuration en bonne forme, lui conférant de plein pouvoir. Mais quand il eut remonté ses 5 étages et qu'il fut seul, au milieu de son triste cabinet, dans son fauteuil de basane, la vue du papier timbré l'écœura. Il était là de ces choses, et des restaurants à 32 sous, des voyages en omnibus, de sa misère, de ses efforts. Il reprit les paperasses, d'autres se trouvaient à côté. C'étaient les prospectus de la compagnie Houillère avec la liste des mines et le détail de leur contenance. Frédéric lui ayant laissé tout cela pour avoir dessus son opinion. Une idée lui vint, celle de se présenter chez M. D'Ambreuse et de demander la place de secrétaire. Cette place, bien sûr, n'allait pas sans l'achat d'un certain nombre d'actions. Il reconnut la folie de son projet et se dit « Oh non, ce serait mal ». Alors il chercha comment s'y prendre pour recouvrer les 15 000 francs. Une pareille somme n'était rien pour Frédéric. Mais s'il l'avait eu, lui, quel levier ! Et l'ancien clerc s'indigna que la fortune de l'autre fût grande. Il en fait un usage pitoyable, c'est un égoïste. Et je me moque bien de ces 15 000 francs. Pourquoi les avait-il prêtés? Pour les beaux yeux de Madame Arnoux. Elle était sa maîtresse. Deslauriers n'en doutait pas. Voilà une chose de plus à quoi sert l'argent. Des pensées haineuses l'envahirent. Puis, il songea à la personne même de Frédéric. Elle avait toujours exercé sur lui un charme presque féminin. Et il arriva bientôt à l'admirer pour un succès dont il se reconnaissait incapable. Cependant, est-ce que la volonté n'était pas l'élément capital des entreprises? Et puisqu'avec elle, on triomphe de tout? Ah, ce serait drôle. Mais il eut honte de cette perfidie, et une minute après, « Bah, est-ce que j'ai peur ?» Madame Arnoux, à force d'en entendre parler, avait fini par se peindre dans son imagination extraordinairement. La persistance de cet amour l'irritait comme un problème. Son austérité un peu théâtrale l'ennuyait maintenant. D'ailleurs, la femme du monde, ou ce qu'il jugeait-elle, éblouissait l'avocat comme le symbole et le résumé de 1000 plaisirs inconnus. Pauvre, il convoitait le luxe sous sa forme la plus claire. Après tout, quand il se fâcherait, tant pis. Il s'est trop mal comporté envers moi pour que je me gêne. Rien ne m'assure qu'elle est sa maîtresse. Il me l'a nié, donc je suis libre. » Le désir de cette démarche ne le quitta plus. C'était une épreuve de ses forces qu'il voulait faire. Si bien qu'un jour, tout à coup, il vernit lui-même ses bottes, acheta des gants blancs et se mit en route, se substituant à Frédéric et s'imaginant presque être lui, par une singulière évolution intellectuelle où il y avait à la fois de la vengeance et de la sympathie, de l'imitation et de l'audace. Il fit annoncer le docteur Deslauriers. Madame Arnoux fut surprise, n'ayant réclamé aucun médecin. « Ah, mille excuses, c'est docteur en droit. Je viens pour les intérêts de Monsieur Moreau. » Ce nom parut la troubler. « Tant mieux, » pensa l'ancien clerc. « Puisqu'elle a bien voulu de lui, elle voudra de moi. » S'encourageant par l'idée reçue qu'il est plus facile de supplanter un amant qu'un mari. Il avait eu le plaisir de la rencontrer une fois au palais. Il cita même la date. Tant de mémoire étonna Madame Arnoux. Il reprit d'un ton doucereux. « Vous aviez déjà quelques embarras dans vos affaires. » Elle ne répondit rien, donc c'était vrai. Il se mit à causer de choses et d'autres, de son logement, de la fabrique, puis, apercevant au bord de la glace des médaillons, « Ah, des portraits de famille, sans doute. » Il remarqua celui d'une vieille femme, la mère de Madame Arnoux. Elle a l'air d'une excellente personne, un type méridional. Et sur l'objection qu'elle était de Chartres, « Chartres, jolie ville. » Il en vanta la cathédrale, les pâtés. Puis, revenant au portrait, il y trouva des ressemblances avec Madame Arnoux et lui lançait des flatteries indirectement. Elle n'en fut pas choquée. Il prit confiance et dit qu'il connaissait Arnoux depuis longtemps. « C'est un brave garçon, mais qui se compromet. Pour cette hypothèque, par exemple, on n'imagine pas une étourderie ?»« Oui, je sais, » dit-elle, en haussant les épaules. Ce témoignage involontaire de mépris engagea Deslauriers à poursuivre. Son histoire de Kaolin, vous l'ignorez peut-être, a failli tourner très mal, et même sa réputation... Un froncement de sourcil arrêta. Alors, se rabattant sur les généralités, il plaignit les pauvres femmes dont les époux gaspillent la fortune. Mais l'aide à lui, monsieur, moi je n'ai rien. N'importe, on ne savait pas. Une personne d'expérience pouvait servir. Il fit des offres de dévouement, exalta ses propres mérites, et il la regardait en face, à travers ses lunettes qui miroitaient. Une torpeur vague la prenait, mais tout à coup, « Voyons l'affaire, je vous prie. » Il exhiba le dossier. Ceci est la procuration de Frédéric. Avec un titre pareil aux mains d'un huissier qui fera un commandement, rien n'est plus simple. Dans les